Voilà, en tout cas, bienvenue. Et donc, le thème de ce week-end, c'est l'amour entre passion et raison. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Vous avez le merveilleux tableau de Rembrandt à côté, avec le père prodigue en amour qui accueille son fils qui était prodigue en autre chose. Et deux prodigalités qui se rencontrent, celle des biens matériels et celle de la miséricorde. Celle de la miséricorde étant plus grande que les biens matériels, puisqu'elle est infinie, elle appartient au cœur de Dieu. C'est déjà un premier indice, j'allais dire, sur le thème qu'on va voir aujourd'hui. Passion et raison, c'est vrai que l'amour, tel qu'on le conçoit, en tout cas tel qu'on le médiatise aujourd'hui, c'est avant tout la passion, c'est avant tout l'émotion qui est exaltée, on en parlera tout à l'heure. Et puis on se dit, mais qu'est-ce que la raison peut avoir à faire avec l'amour? Pourquoi faudrait-il que la raison s'immisce dans l'amour? Si la raison vient dans l'amour, alors c'est plus de l'amour, ça devient du rationalisme et puis tout va s'écrouler. Alors on va voir que c'est peut-être pas tout à fait comme ça que Dieu a construit l'être humain. Et j'aimerais juste reprendre avec vous un petit peu les différentes conceptions de l'amour. Il y a peut-être des fautes, hein. C'était fait cette nuit en continu, donc voilà, mais ça va pour l'instant, vous me dites si jamais. Ça va, écrire chapitre, ça va. Quelles sont les différentes manières de concevoir l'amour à travers la tradition? Il y a les grandes qu'on connaît. Vous savez que Benoît XVI a écrit une encyclique Dieu est amour, Deus Caritas Est, et il a défini dedans notamment deux mots qui appartiennent vraiment au langage philosophique et théologique de l'amour, Eros et Agapé. On les retrouvera là-dedans. Mais il y a aussi une démarche un peu plus fine et subtile qui s'est développée au fil des siècles à travers la philosophie grecque et la pensée. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Le premier mot qui est utilisé, épituma, c'est un mot qui décrit l'aspect très important qui unit les conjoints ou les amis aussi. Il s'agit d'un, mais les conjoints en particulier, il s'agit d'un désir très fort de toute nature, parfois bon, parfois mauvais. C'est très beau le Christ quand il dit « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous ». Eh bien, c'est ce mot-là qui est utilisé. Le grand désir avec lequel le Christ désire manger la Pâque, c'est ce mot-là qui est utilisé. Et en même temps, quand Saint Jean parle de la concupiscence des yeux et concupiscence de la chair, c'est le même mot qu'il va utiliser. Le désir des yeux qui veut accaparer, le désir de la chair qui veut posséder et mettre la main sur l'autre, c'est le même mot qui est utilisé. Donc on voit que en grec, les mots peuvent avoir une ambivalence comme ça. Ce qui va être caractérisé cet élan, c'est le désir, l'attrait. Je suis aspiré vers l'autre d'une force très grande. Je suis aspiré à l'autre et je peux même le convoiter. Et donc, cette ambivalence va impliquer nécessairement un choix moral que je vais devoir faire. Attendez, oui, c'est normal, voilà. Epituma, l'attrait, la passion, le coup de foudre aussi. Le coup de foudre qui saisit le cœur, qui prend tout, qui tout d'un coup bouleverse les choses. Qu'est-ce que vous faites sous la pluie? Rien, j'attends le coup de foudre. Voilà. Donc, il y a des gens qui passent leur vie entière peut-être à attendre ce moment en particulier ou le retrouver une fois qu'il a eu lieu. Le coup de foudre, finalement, on se rend compte que ça saisit tout l'être quelque part. D'abord, il y a des phénomènes physiologiques qui se produisent. Là, les médecins sont bien même que moi d'en parler. Ça embrouille un petit peu le fonctionnement de notre cerveau. Il y a différentes substances qui sont produites. Une impression de vie et d'exaltation qui saisit ça. Si vous avez passé par là, vous savez ce que ça veut dire. Hein, peut-être que vous connaissez, hein, à quoi ça fait référence. Tout d'un coup, toute la vie se réorganise autour de cet amour et le passé comme aspiré, un peu comme un aimant qui attire la limaille de fer et l'ordonne autour de cette passion qui naît. On a les yeux que pour la personne qu'on aime et on a le cœur pour elle, on dessine des petits dessins, voilà. Il y a une recherche d'unicité aussi à travers tout ça, il y a des grandes aspirations qui se manifestent. En même temps, c'est profondément exaltant et douloureux simultanément, puisque si l'être aimé n'est pas là, si ma passion n'est pas satisfaite, si un regard ailleurs de la personne que j'aime, attention, ça m'arrache terriblement. Enfin, ça arrache les autres. Je suis amoureux, mais j'ai la peine à définir ce que c'est. Et en même temps, ben voilà, c'est un premier élan, un premier élément. Vous savez bien que...